Bonsoir, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir présenter Henri De Luca à Montpellier. Je rappelle que j'ai invité Henri De Luca en 1995 à Montpellier et j'étais contente qu'un dialogue s'établisse entre Henri et le public de Montpellier. Je l'ai invité encore une autre fois et comme il n'y a jamais deux senza tre, comme me disait Henri, alors il est venu une troisième fois. Et aujourd'hui, il est encore à Montpellier pour vous rencontrer. Henri établit un dialogue, un très très beau dialogue avec le public. C'est des moments privilégiés, je pense, pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui veulent le découvrir. Il est né à Naples en 1950. Il a consacré aussi à sa ville d'origine, l'un des livres les plus récents publiés en Italie, Napolide, qui est un livre, pour ceux qui peuvent le lire en italien, effectivement, et il est prévu peut-être une traduction en français de Napolide. Henri, donc, effectivement, est engagé d'abord dans l'écriture. Et cette écriture qui est aussi un témoignage, il a appris de nombreuses langues et son écriture là, en la langue italienne, parce que je voudrais que les lecteurs qui peuvent se rapprocher de cette langue de Henri est une langue littéraire très très particulière, parce que Henri joue toujours une sorte d'écart entre l'italien, son italien, sa langue littéraire à lui, et une langue, officielle. Disons, il y a toujours un écart qui provient d'un processus d'écriture qui est très intéressant et qui est toujours confronté d'une certaine manière avec l'exercice de la traduction au sens le plus élevé. Henri traduit depuis longtemps des livres de l'Ancien Testament et cette confrontation avec l'hébreu, effectivement, on ressent cette présence même dans sa langue littéraire en italien. C'est comme si une langue à l'intérieur, effectivement, poussait les frontières possibles d'une autre langue. On ressent bien sûr la présence du napolitain. Rappelez toujours que l'Italie est une langue, l'italien est effectivement enrichi de plusieurs langues régionales. Et le napolitain, comme langue maternelle, langue de la maman, comme on dit, mamelloche. Et voilà, donc la présence de la langue régionale est très importante pour arriver à ce résultat littéraire qui est aujourd'hui la langue de Henri De Luca, qui est, Pasolini une fois disait pour Caproni, Caproni parle il capronese, moi je dirais que De Luca aussi il parle une langue qui est vraiment à lui. Et je lui passe tout de suite la parole, peut-être tu feras une intervention après, ou tu préfères maintenant? À partir de Napolide, j'ai trouvé très intéressant le rapport que tu établis entre les Napolitains et le sol volcanique, et entre les habitants aussi du nord de l'Italie, la pianura padana, avec leur sol qui est différent. Et ce rapport entre l'homme, l'être humain et le sol me paraît vraiment essentiel, parce que tu as pu très bien partir de cette réflexion dans Napolide.
Ah, c'est, j'ai déjà oublié ça. Alors, je dois la réinventer, parce que. Donc, d'abord, je veux dire que je te présentais comme une personne engagée, mais ce n'est pas exactement comme ça. Je suis quelqu'un qui, dans sa vie, a pris des engagements. Des engagements par des circonstances particulières. Par les circonstances qui regardaient le monde autour de moi. C'était ce qui m'a entraîné à prendre ces engagements. J'étais engagé dans un mouvement d'extrême gauche, donc dans la gauche révolutionnaire italienne pendant beaucoup d'années. beaucoup d'années, presque 13 années, donc toute ma jeunesse et quelque chose en plus. Et après, comme engagement, je me suis trouvé à prendre, à faire partie des convois d'aide pendant la guerre de Bosnie. Ça, ce sont des engagements que j'ai pris et qui étaient forcés par les circonstances. Je n'étais pas quelqu'un qui voulait s'engager, mais c'était impossible de me soustraire à ça. Donc, le sol. Le sol. Donc, le sol napolitain, c'est un sol un peu spécial parce que c'est un sol instable. Donc, ce qui donne, des raisons de sismiques et des raisons vulcaniques, donc ce qui donne au caractère napolitain la belle élégance de la manque de sûreté. Manquer de sûreté d'être bien installé chez lui, c'est quelque chose qui donne de l'élégance au système nerveux. Ils le rend très vivace, très capace de répondre avec vitesse de reflet au déménagement qui vient d'être intimé, non, vient d'être imposé tout à coup, souvent la nuit. Le tremblement de terre préfère la nuit. Et donc, ce caractère a aussi fait. C'est aussi prolongé dans les expressions artistiques napolitaines. Donc, plutôt que la prose, le napolitain s'est spécialisé dans les chansons et dans les poèmes. Ce sont des choses plus courtes qui peuvent être écrites et jouées là où il y a peu d'espace et peu de temps. Et aussi la tarantella, insomma, c'est typiquement une danse sismique qui répète le sursaut du sol. Et sur cette incertitude, heureuse incertitude de lui, il y a aussi la matière dans laquelle est faite la ville, le tuf. C'est pas une pierre ce ne sont pas des briques, c'est de la pierre du terrain, de la pierre volcanique. Et donc le tuf est un matériel de construction qui se trouvait au-dessous de la ville, et donc la ville a été creusée pour extraire le matériel de construction. Donc Naples est devenue, avec les siècles et les milliers d'années, une ville double, parce qu'il y a une double de la ville au-dessous, vide. C'est un vide dans lequel c'est comme une ombre, non? Quand vous avez une ombre, là c'est votre ombre, c'est votre corps invertébré, l'ombre. C'est comme ça, la ville, le sous-sol de Naples, c'est l'ombre dépeuplée de la ville, mais également immense. Et en plus, ce matériel tuf est un matériel qui respire beaucoup, donc qui laisse passer les sons, les odeurs, les rumeurs. Et donc c'est une ville qui était aussi la plus superpeuplée comme densité habitative d'Europe. Donc c'était une ville où toutes les personnes étaient présentes à eux-mêmes, continuellement, parce qu'on continuellement on écoutait ce qui se passait en haut, en bas, dans la rue, dans la chambre à côté. C'était une ville qui était contemporaine et insomniaque à soi-même, toujours. Ça dépend du tout. Donc le sol est parfois important, parfois indifférent, je ne sais pas. Mais pour nous, a été important. Parce que la matière sur laquelle nous avons appuyé les pieds et les sommeils.
Oui, pour revenir à Naples. Alors, c'est vrai que Naples est cette ville poreuse, cette ville un peu double, comme vous le dites. Et en même temps, ce qu'on perçoit dans vos livres, dans vos romans, dans des nouvelles, c'est une sorte de non-appartenance. C'est un mot qui revient souvent chez vous, le sentiment de ne pas appartenir à une ville en particulier, à un lieu, et même à une patrie ou à un pays. Il y a un sentiment de nomadisme, de traverser des lieux, des expériences, et d'impossibilité d'appartenir. Et vous dites même que Naples, c'est la ville, c'est la seule ville dont vous avez eu envie d'être expulsé. Donc, alors, je voudrais que vous nous parliez à tous, au public, de cette question qui semble si, presque blessante, hein, l'exil, l'exode, le sentiment de la non-appartenance à un lieu, ou même peut-être à une histoire ou à une littérature.
Moi, je ne peux pas parler pour moi d'exil ou d'exode parce que je me suis allé tout simplement. Personne ne m'avait chassé. J'ai eu des poursuites pénales dans la vie, mais donc je me suis enfoui parfois, mais pas de Naples. De Naples, je me suis allé moi-même. Je me suis extrait de là, comme peut s'extraire une dent d'une gencive. Avec sans besoin de dentiste. Et aussi avec cette formule des racines qui, une fois extraites, ne se vont à remettre dans aucune autre gencive. On reste comme ça, comme des racines suspendues. Et donc c'est une perte d'appartenance. Je n'appartiens pas plus à cette ville, mais je viens de là. Je viens de là, j'ai vécu là jusqu'à 18 ans. Et donc, dans cette ville, formé mon éducation sentimentale, qui n'était pas celle amoureuse. L'éducation des sentiments principaux d'un caractère, d'une vie humaine, qui sont les sentiments de la compassion, de la colère, de la honte. Formé là, dans cette ville. Donc cette ville m'a accordé mon système sentimental et nerveux sur sa modulation. Et d'un point de vue nerveux, c'est comme si on était accordé les nerfs une octave à nous. Avec une tension des cordes nerveuses plus haute. Donc, je ne peux pas dire que j'appartiens plus à cette ville, parce que quand on part de là, on la trahit. Et on l'abandonne, et la ville ressent ce départ comme une trahison. Donc j'essaie de m'être expulsé, mais aussi d'avoir été oblitéré comme un billet de Compostelle. Bon.
De tram.
Mais donc si cette ville, si je n'ai plus le génitif, je ne suis plus de cette ville, mais je viens de là. J'ai un sentiment de provenance. Provenance qui me substitue, qui fait la substitution du sentiment d'appartenance. Je viens de là, c'est mon lieu qui explique à moi qui je suis, d'où je viens et qui je suis. Et donc, je peux dire que cette ville, si n'est plus ma ville mère, est pour moi une ville cause, de laquelle je suis en effet. appartenance, je l'ai ressenti par contre vers ma génération politique, celle des insurgés des années 70. Là, j'ai eu toute mon appartenance, mon droit, mon souvenir. C'est passé tout là-dedans. Cette expérience a complètement épuisé ma possibilité, toutes mes ressources d'appartenance. Après ça, je ne puis pas même m'inscrire à un club de bocce, comment on dit ?
De pétanque.
L'autre appartenance pour moi, c'est à la langue. Je ne suis pas patriote. Je ne m'enflamme pas en écoutant l'hymne national, ni quand bouge l'étendard au vent. Je suis patriote face à ma langue. Je me sens un patriote de ma langue. J'aime l'italien, j'écris dans cette langue. Je suis plutôt un écrivain en italien, plutôt que directement un écrivain italien. Il faut mettre dans, parce que je suis résident là-dedans. Là, j'ai un droit de résidence. Et donc, c'est la langue de mon père, donc c'est la langue que je parlais avec lui à la maison. Il prétendait qu'on parlait l'italien sans accent, et donc j'ai su tout de suite qu'il y avait des langues à apprendre. Celle obligatoire, que c'était le napolitain, sans lequel à Naples c'était impossible de survivre. Et l'autre, c'était cette langue mystérieuse, c'était l'italien qu'on parlait doucement avec mon père et qui se trouvait dans les livres. C'était une langue muette qui se trouvait dans les livres, et donc ça me plaisait l'italien parce que c'était une langue muette. C'était une langue reposée, qui n'était pas pressée. C'était une langue qui avait beaucoup de voyelles en plus et de consonnes en plus de l'italien, du napolitain. Si on prend une page de napolitain et une autre d'italien, en traduction, l'italien est le double. Parce que le napolitain coupe toujours. Le napolitain a le record mondial de la vitesse du verbe. Il a le verbe aller qui conduit simplement i. Plus court que comme ça, non, è impossibile. I. Che serait déjà couper le verbe latin ire. I. Donc, l'italien, c'était une langue magnifique parce que c'était une langue qui n'était pas pressée. Avait pas besoin de se mettre dans les de crier, de se faire large dans la densité que nous étions.
Juste une deuxième question, après je repasse la parole à Angela. Et derrière, donc, la langue mère, cette langue dans laquelle il a fallu établir résidence, et se profile aussi une autre langue qui, pour moi, est, en tant que lecteur, a toujours eu quelque chose de très mystérieux, c'est l'hébreu. Et toute cette aventure que vous avez eue avec l'hébreu, comme traducteur, comme lecteur, et cette source, cette origine, ce non-lieu originel qu'a été la langue hébraïque et les livres de la Bible pour vous, en tant que traducteur, en tant que... parfois commentateur, des notes, toute une série de choses qui ont côtoyé votre pratique de l'hébreu. Vous l'avez même défini langue grand maternelle, par comparaison à la langue maternelle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cela ?
Donc, l'ancien hébreu, pas l'hébreu moderne, qui on parle maintenant en Israël. L'ancien hébreu, c'est la langue dans laquelle a été... fixé pour la première fois le monothéisme, la révélation du monothéisme. En principe, Dieu créa le monde, le principe de cette langue, c'était l'ancien hébreu. À différence du Nouveau Testament qui a été rédigé en grec, donc dans une langue autre, différente de celle parlée par les protagonistes, par les directs intéressés, L'ancien hébreu a gardé, l'Ancien Testament est un ancien hébreu, a gardé son format original, duquel que n'importe qui peut traduire, moi comme la pontifice comme la traduction du Vatican. Donc, on va à la même source. Ça avait une attraction pour moi. Mais je n'étais pas un étudiant, quelqu'un qui étudiait. Je suis parti à 18 ans de l'école en jurant à moi-même que j'aurais jamais plus eu un maître et jamais plus je serais allé dans une école. Et j'ai gardé la promesse. Et donc, c'était pas question d'étudier, donc, de faire l'étudiant. J'ai commencé à m'attacher à l'ancien hébreu dans mes années de la vie ouvrière. J'ai fait une vingtaine d'années de vie ouvrière. Et donc, j'ai commencé à planter cette étude avant d'aller travailler le matin. Donc c'était un système pour moi d'obtenir, d'avoir quelque chose pour moi, de garder quelque chose pour moi avant de me faire arracher toute la journée par le travail. Il y a un vers d'un peu d'un prophète qui s'appelle Amos qui dit comme arrachera un berger de la bouche du lion des oreilles ou des pattes, comme ça seront sauvés les fils d'Israël. Donc c'était un vers qui, pour quelqu'un, était un vers catastrophique, donc non se sauve rien. Pour moi, c'était un beau vers, parce que ça veut dire que dans la bouche du lion, on pouvait sauver quelque chose. À propre danger, donc avec de l'effort, de se battre contre cette force supérieure, mais on pouvait arracher à ma journée Lyon quelque chose pour moi. Donc j'ai arraché des morceaux d'ancien hébreu à la journée. Mais je me suis trouvé bien dans cette étude solitaire et sombre. Se passait une heure avant la sortie, donc c'était même en été, c'était encore nuit. Et j'étais content de ce réveil et de tous mes réveils de la vie ouvrière, parce que j'avais ce rendez-vous. Un rendez-vous avec je me réveillais et je me réveille encore, toujours à la même heure, avec l'ancien hébreu, avec du café napolitain, et le mélange est efficace.
Donc c'est vrai qu'il y a quand on lit les traductions de R et de l'hébreu, donc on voit que parfois les notes sont plus importantes que, disons, au niveau de l'espace de la page. Les notes, c'est une véritable exploration des termes hébraïques et une retraduction de la Bible qui nous met face à ce texte de manière totalement nouvelle. Mais chaque mot et chaque locution, chaque manière de chaque expression que tu trouves dans la Bible est rattachée, on pourrait dire, à une sorte d'anthropologie biblique, d'anthropologie d'exploration d'une culture qui nous a bien sûr formés d'une certaine manière parmi les différentes influences culturelles de l'Occident. Je rappelle une phrase de Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui disait « L'Europe, c'est la Bible et les Grecs. » L'Europe, c'est la Bible et les Grecs. Disons, là aussi, on pourrait rajouter d'autres influences culturelles qui ont fait le monde occidental, mais c'est vrai aussi que ton travail d'exploration de cette langue, c'est une manière de revenir vraiment aux sources, disons, de cette culture occidentale qui, d'une certaine manière, est passé à travers la lecture du texte biblique. Mais non seulement, il y a aussi un rapport très particulier à cette langue essentielle qui est l'ancien hébreu, et qui, de certaine manière, correspond aussi à ton, à ta recherche d'une langue essentielle, décharnée, une langue sobre, avec le minimum de moyens, il faut dire le maximum, être au maximum expressif. Et alors, pour dire les différents livres que tu as écrits, on se confronte souvent à de la prose, mais aussi des textes poétiques qui ont été publiés en français comme en italien. Donc, œuvre sur l'eau pour les lecteurs français, par exemple, et Solo Andata, un texte publié en Italie en 2005, Righe che vanno troppo spesso a capo, des textes, donc, des textes qui vont trop souvent à la ligne, tu nous dis modestement, mais la poésie dans ta langue littéraire est présente et dans la prose et dans les textes qui ont une apparence poétique, disons, au niveau de la rédaction. Donc, c'est, disons que moi, je ne trouve pas trop de différence, on pourrait dire. Je ne trouve pas choquant, disons, ce passage de la prose à la poésie, puisque je trouve tes textes en prose extrêmement empreints de poésie, et les textes poétiques, comme Solo Andata, par exemple, qui nous proposent une poésie épique, une poésie chorale, une poésie parfois proche du proverbe, parfois proche de la Genèse, de la Bible, parfois, et parfois effectivement, proche aussi de ce cœur de voix que tu fais parler dans le livre. Donc, quel est ton rapport avec ces deux genres d'écriture, la prose et la poésie?
Je suis quelqu'un qui écrit de la prose. Ça, c'est sûr pour moi. J'écris de la prose et je sais qu'une page de prose, quand je l'écris et je l'offre, je la donne, je sais que mieux que ça, je ne peux pas l'écrire. J'ai ce sentiment de tranquillité avec moi-même. Je sais qu'une page de prose, mieux que ça, je n'arrive pas à la faire. Par contre, quand je me trouve avec ce sol incertain qui est la sismique, qui est la poésie, je sais que toutes ces pages que j'écris peuvent être améliorées, et le fait que je n'arrive pas à les améliorer a à voir avec mon incapacité et aussi ma paresse. Donc je ne vais plus les toucher, donc je les laisse comme ça. Ce sont des approximations par défaut, comme on dit, par défaut. Ce sont des approximations par défaut. Donc c'est pour ça que je sais, pour sûr, je tiens pour sûr pour moi-même que je ne suis pas poète. Et en plus, je ne suis pas d'accord sur le fait que ma prose est poétique. Même ça, je ne le crois pas. Parce que je trouve que la prose est une matière sûre, c'est un terrain solide, la prose. Non? Tu sais où tu vas mettre tes syllabes, tes accents, tu mets, tu gouvernes ta ligne. Par contre, la poésie, c'est comme aller sur un bateau. Non? Bouge. L'eau de la surface. Et l'équilibre est continuellement menacé. Il faut continuellement. Ou bien, c'est comme aller à cheval. Par contre, la prose, on va à pied et la poésie va à cheval. Là, la poésie va à cheval parce que le poète, c'est vrai qu'il est sur le cheval et décide la direction, mais ne décide pas où le cheval met les pieds, les zampes, les pattes. Où le rumeur et la place des syllabes du cheval, il n'arrive pas à la décider lui-même. Et donc, le poète, c'est quelqu'un qui a besoin de l'inspiration du cheval. Alors, dire à quelqu'un qui a une prose poétique est comme dire à quelqu'un qui va à pied et tient un cheval à côté. Alors, je dis, non, je n'ai pas le cheval à côté. Sinon, je me prends pour un con moi-même. Je monterais sur le cheval si j'avais le cheval. Donc, sur la question poétique, donc je suis quelqu'un qui fait pas des, des vers, mais des lignes qui vont souvent à la ligne, qui s'interrompent et repartent, n'arrivent pas au fond de la ligne. Et ce livre-là, c'est un livre qui essaie de faire le, comment se dit en français, pêche pilote. Le poisson pilote, le poisson qui c'est sur la, sur le, autour, sur le nez de, du grand poisson, de le, hein? Pêche pilote, poisson pilote, hein? Ah, pilote. Alors c'est un livre qui a l'intention, l'ambition d'être poisson pilote. Donc parce que nous sommes contemporains de la, d'une énorme migration d'êtres humains sur la surface de la, du monde. J'imagine que les siècles à venir se souviendront de nous, de notre siècle, du 20e ou du 21e, comme les siècles des migrations, pas comme les siècles des guerres, parce que ce sont les migrations qui ont plus profondément et plus et pire que les guerres mondiales vidé les terres, les pays. Chez nous, dans 50 ans d'immigration, sont partis 30 millions de nous. Aucune guerre mondiale, des guerres mondiales, il fallait 20 guerres mondiales pour faire tout ce vidange. Donc nous sommes contemporains de ce siècle d'énormes migrations d'êtres humains sur la surface de la planète, qui se déplace à pied sur la planète et comme ça déplace la planète. Et alors, avec ce récit, je voudrais être le poisson pilote d'un grand poisson, d'un grand poète, d'un Homère, qui se met à écrire cette épique. Je l'écris comme ça, dans ces lignes approximatives, parce que c'est une expérience humaine si énorme qu'il a besoin de l'épique. Et donc je voudrais être le poisson pilote d'un Homère qui écrira l'épique et l'odyssée de l'humanité qui arrive sur les côtes de notre mer, de notre ancienne mer commune. En plus, je viens de 1900. Et l'expression littéraire du XXe siècle, pour moi, était la poésie. La poésie, c'est le format le plus court, le plus condensé de la littérature. Parce que c'était un siècle qui n'avait pas du temps. C'était un siècle des déportations, des ségrégations de millions d'êtres humains, des sièges, des destructions, donc où il y avait peu de temps pour écrire. C'est un siècle littéraire. L'expression littéraire de ce siècle sont les poésies, les lettres, plutôt que la prose. Donc j'aime la poésie parce que c'est la manifestation littéraire de mon siècle. Et j'apprends de là plus que de... Avec la prose, je me tiens une belle compagnie en lisant les livres, les histoires, les romans. Mais avec la poésie, j'apprends.
Oui, vous avez parlé de chevaux. Mais alors, il faudrait rappeler au public, qui l'a peut-être déjà lu, qu'un de vos plus beaux livres s'intitule « Trois chevaux », justement. C'est un livre de prose, « Tre cavalli ». Mais les chevaux ne sont pas absents de votre prose. Peut-être qu'ils ne sont pas à côté de vous. Peut-être que vous montez à cheval de temps en temps et puis parfois vous descendez pour faire reposer le cheval et continuer à marcher. Mais moi je suis d'accord avec Angela qu'il ne s'agit pas de penser la poésie comme un genre. Il y a une force, hein, une force, une douceur aussi, une... capacité d'invention de langue poétique dans vos proses qui trame toute votre manière de marcher, qui la, qui la détermine. C'est pourquoi vous n'êtes jamais bavard, par exemple. Vous êtes concis. Et ne pas être bavard pour un romancier, pour un écrivain en prose, c'est une très très grande qualité que la poésie peut-être vous a donnée, ou vous donne toujours.
Plutôt le fait que j'étais beaucoup hôte chez les autres. Je n'ai pas eu, pour beaucoup d'années, je suis allé hôte chez des camarades de l'expérience révolutionnaire ou dans les lieux où j'allais travailler comme ouvrier. Et donc un hôte doit avoir la sensibilité et la bonne éducation de se faire, de se tirer de la table et de l'hospitalité 5 minutes avant d'être chassé sans arriver à ça, mais d'être d'ingombre, non, de trop. C'est toute une sensibilité qu'il faut développer pour savoir que c'est combien 5 minutes avant. C'est quand il faut. Et j'ai développé cette sensibilité comme hôte et aussi comme quelqu'un qui écrit des livres. Quand quelqu'un écrit un livre, est hôte chez le lecteur. Et le lecteur doit avoir au moment qu'il a fini le livre, il doit avoir envie de quelques pages en plus. Non? Ça, ce sont les 5 minutes d'avance. Non? Terminer avant que le lecteur se fatigue et que fasse tomber le livre. Pour ça, mes livres sont minces. Et pour avoir l'impression de n'avoir pas exagéré avec ma prétention de tenir compagnie à quelqu'un avec une histoire. Donc de sortir de sa table avant de qu'il soit complètement rassasié, non, comme je dis, satio, rassasié. Mais lui laisser un peu de goût de...
Mais j'ai le sentiment en même temps que vos livres sont aussi des lieux d'hospitalité. Et le lecteur accueille vos livres, mais vos livres accueillent. Ils sont ouverts à des sensibilités différentes. Ils accueillent, ils sont des lieux de résidence, même peut-être passagers, mais qui sont extrêmement hospitaliers, extrêmement généreux. Enfin, une générosité humaine, une tentative de trouver comme des racines communes aux hommes, aux gens, aux enfants, aux adultes, aux femmes et aux hommes, quelque chose qui serait une racine, une présence commune, quelque chose qui ne divise pas, mais au contraire apaiserait les conflits. Et en même temps, on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui est manqué, quelque chose qui est raté dans les rencontres, comme si c'était la loi même de la vie de manquer quelque chose ou de manquer de quelque chose.
Fait que j'écris des histoires à moi, des histoires qui de ma vie, de la vie que je connais. Je n'invente pas des personnages, j'emploie des personnes. Et le moment où que je commence à écrire, c'est parce que tout à coup je me suis souvenu d'un épisode ou d'une personne, et alors j'ai envie de l'écrire, j'ai envie d'être avec lui, avec cet épisode, avec cette personne, avec les personnes. Et donc je les convoque, une convocation autour de moi, et j'écris plutôt leur voix. Je ne suis pas quelqu'un qui est le patron de l'histoire, je suis quelqu'un qui rédige l'histoire et le rédige d'un côté partiel. Il y a un moi qui fait le narrateur, un moi narrant qui donne sa version de l'histoire, sa version personnelle de l'histoire. Donc il n'est pas le patron de l'histoire, il est quelqu'un qui la voit dans son angle et l'a dit. Pour moi, l'histoire, c'est quelque chose qui est raconté à voix. Mes lignes sont courtes parce qu'arrive où il arrive le souffle, pour le dire. Et donc, Il n'y a aucun message dans ce livre. Il y a tout simplement un court passage particulièrement important pour moi que je, tant que je l'écris, et qui vient d'un souvenir.
Eri, je voulais lire un passage d'un récit que tu as écrit quand tu t'es rendu à Mostar, avril à Mostar, une sorte de récit de voyage, et qui, ces réflexions proviennent d'une rencontre avec les enfants, surtout les gens que tu as pu croiser, que tu as pu rencontrer là-bas en Bosnie, à Mostar. Si nous étions Europe, je pense, nous viendrons à Mostar Est pour la reconstruire entièrement. Nous pourrions parier sur ces gens cordiaux, civilisés, capables de cohabiter avec tout le monde. Si nous étions Europe, nous pourrions embrasser cet islam de chez nous, ce Coran hospitalier, fier de ses pierres et désespéré de les voir tuer. Si nous étions Europe, nous verrions parmi ces ruines l'évidence d'une nouvelle capitale, un lieu de concorde à rebâtir, un pont après l'autre. Alors, nous serions pontifes, lanceurs de voûtes, planteurs de piliers, pour renouer des rives. Et donc, cette brève citation pour dire que, effectivement, dans ton œuvre, il y a ce rapport très fort entre art et existence, on pourrait dire, entre cette rencontre avec l'autre devient un élément essentiel et presque un moteur même de l'écriture. Et un doctorant parmi nous, Vittorio Valentino, qui travaille sur ton œuvre, qui dit contrat d'authenticité, ben, j'ai beaucoup apprécié cette expression. Effectivement, on a l'impression qu'on a affaire à une écriture authentique, même s'il y a bien sûr le côté littéraire, le côté créatif, mais qui se greffe toujours sur un témoignage, sur une expérience vécue, et qui rend ton écriture vraie.
Je ne sais pas si l'écriture doit être vraie parce qu'elle est vécue. Par moi, c'est comme ça, j'ai écrit tout simplement des histoires vécues, mais il y a de l'écriture vraie qui est complètement inventée et campée sur des piliers d'air qui sont beaucoup plus solides, parfois. Donc, sur la vérité, pour moi, la vérité, c'est un ton de voix. C'est un ton de voix qui est juste. Si est juste, je lui crois et je peux l'écrire. Et si je n'arrive pas à l'écouter bien, sonne faux. Je ne savais pas d'être si sensible au pont. J'ai habité sur une ville de mer. Une ville de mer n'a pas de pont. A des bateaux, mais pas de pont. Les ponts, pour moi, c'était comme une habitation d'urgence. Il y avait les ponts, alors on pouvait se mettre sous les ponts. Dans mon imagination, les ponts se servaient à ça. À se coucher. Et après, j'ai vécu dans des villes avec des rivages, des fleuves et des ponts. Et encore, je ne savais pas que j'étais si sensible aux ponts. Mais quand je fais le métier de maçon, nous sommes des gens qui fabriquent des murs. Et les murs servent à séparer. Nous sommes des séparateurs inlassables. Et ça doit séparer. Les murs ne sont pas définitifs, ne sont pas l'éternité, les murs, non? Il y a des murs qui tombent aussi. On peut les détruire, les murs. Les murs, c'est rien de... Mais le pont est la plus cordiale œuvre de la ouvrière, de la maçonnerie, de l'ingénierie. C'est une œuvre que... collègues, ne séparent pas, mais réunis, qui tient ensemble des choses séparées. C'est le contraire du mur, le pont. Je l'ai su quand on détruit le pont de Mostar, ce vieux produit, cet ancien citoyen d'Europe, c'était un pont de 1500, de 6e siècle. Cette silhouette magnifique plantée sur les deux côtés de Mostar-Est et Mostar-Ovest de la ville de Mostar. Donc j'ai été convoqué dans cette guerre au moment de la destruction du pont de Mostar. C'était l'été, c'était l'automne de 93. Et comme ça, quand ils ont détruit, quand l'OTAN a commencé à détruire les ponts sur le Danube, le pont de Novi Sad et le pont autour de Belgrade, pour moi ça a été un acte de une offense comme celle de Mostar. Je suis allé à Belgrade. Je suis allé à Belgrade pour déserter mon pays qui était bombardier de villes. Je considère le bombardement d'une ville est l'acte de terrorisme par excellence. Je le sais à travers les récits de guerre de ma mère et des femmes de Naples. Naples a pris, pendant la guerre, un peu plus que 120 bombardements aériens. Et ce qui est resté de terreur dans les récits est passé dans les fibres, dans la construction sentimentale et nerveuse d'un garçon qui les écoutait. Quand je suis allé à Belgrade pour la première fois, je suis arrivé de nuit de l'Hongrie, j'ai écouté la sirène de l'alarme aérienne pour la première fois de ma vie. Je l'avais déjà écouté, je l'ai reconnu. Il était déjà dans les bien planté dans le cauchemar de ma mère qui m'avait transmis ce son, exactement le son musical de ce. C'était ça qui était resté coincé dans ce cauchemar. Le son, plutôt que les explosions, les destructions, mais le son de la sirène d'alarme. Et donc je crois que l'acte, que le terrorisme commence dans le XXe siècle avec le bombardement aérien et se poursuit aussi, mais ça c'est l'acte de terrorisme par excellence et commence à Guernica dans l'avril de 70 ans, il y a 70 ans. Guernica est le premier acte de terrorisme et tout le reste est tout ce qui rentre sous l'espèce de la voie terrorisme qui n'est pas un bombardement aérien, c'est un décalage mineur de ça, tiré sur une concentration humaine et l'acte de terrorisme par excellence. Je crois que le 20e siècle a inventé cette guerre nouvelle. La guerre, pas plus la guerre entre armées, mais la guerre des armées contre les désarmés. Ça, c'est la spécialité de la guerre moderne. Avoir la population civile comme cible principale. Ça, c'est sa spécialité. Et donc, c'est ça, le terrorisme. Parce que terroriser le plus possible et détruire le plus possible la résistance civile d'un peuple. Et donc je ne savais pas d'être aussi sensible au pont. Jusqu'au moment qu'ils ont commencé à casser les ponts, puis jusque là je ne savais pas que c'était si important pour moi cette construction. Je ne suis pas devenu pontife.